Très bien. Ben, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Paul Kosalkowski, je suis le développeur du projet Replicant. Dans cet exposé, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que Replicant et tous les enjeux autour de la question des appareils mobiles et des logiciels libres. Autant du point de vue de la liberté en fait que du point de vue de la vie privée et de la sécurité. Alors tout d'abord, les appareils mobiles, finalement, ils sont partout, on les côtoie de plus en plus dans la vie de tous les jours, c'est nos téléphones, nos tablettes, toutes ces choses-là. Et en fait, ces appareils, c'est devenu de vrais ordinateurs, ils ont un matériel qui est vraiment puissant, ils exécutent de vrais systèmes d'exploitation sur lesquels on peut installer des applications, et on peut faire des mises à jour, toutes ces choses-là. Et si on regarde un petit peu l'évolution des appareils de communication, en fait, au début, on avait un téléphone qui était entièrement matériel, tout était fait par de l'électronique, et puis on a un peu évolué vers un téléphone fixe, ce qu'on a aujourd'hui, qui est peut-être de moins en moins utilisé, mais qui est en fait constitué surtout maintenant de microcodes, donc c'est-à-dire de puces et d'informatique quand même. Les tout premiers téléphones mobiles étaient en fait un petit peu faits de la même façon, c'est-à-dire qu'on avait de petits logiciels qui avaient pas l'air bien puissants, qui s'exécutaient sur du matériel qui avait pas l'air bien puissant non plus. Et puis finalement, on a eu les smartphones qui sont arrivés, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce que la plupart des gens utilisent. C'est vraiment ces choses avec du matériel très puissant et des systèmes d'exploitation très complets. Alors finalement, on en arrive à une situation où on a vraiment du logiciel et on peut vraiment parler de logiciel libre. Ça devient vraiment pertinent. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à évaluer ça du point de vue du logiciel libre? Et finalement, parce qu'on peut, parce que le matériel est suffisamment puissant, toutes ces choses-là. Et toutes les questions pertinentes vis-à-vis du logiciel libre sont complètement applicables. C'est-à-dire la question de garder le contrôle de son informatique plutôt que d'être contrôlé par son informatique, donc c'est-à-dire toutes les quatre libertés qu'énonce Richard Stallman, toutes ces choses-là, c'est particulièrement pertinent. Tout le côté aider sa communauté, tout ce qui est autour du logiciel, et l'aspect qui est en fait plus marqué au niveau des appareils mobiles, c'est tout ce qui va être confiance et sécurité, en fait, à la fois dans les données qu'on peut stocker sur notre téléphone et aussi dans les communications, puisque c'est quand même avant tout pour ça qu'on s'en sert. Et un autre aspect lié à la vie privée, c'est évidemment les données qui peuvent être collectées par cet appareil qu'on transporte sur nous toute la journée et qui peut entendre, relever des tas d'informations personnelles et privées. Alors finalement, on a aussi d'autres raisons qui sont pas forcément éthiques ou philosophiques, mais qui sont plutôt d'un ordre technique. C'est essentiellement pouvoir modifier le logiciel pour en faire ce qu'on veut, bon, comme le logiciel libre, et puis quelque chose qui est assez important, notamment du point de vue d'Android, c'est aussi de pouvoir suivre des versions. On sait qu'il y a pas mal de téléphones qui restent à de vieilles versions, on se demande un peu pourquoi, et en fait, c'est vrai que si on avait du logiciel libre, on pourrait faire suivre nos appareils sur les nouvelles versions. Alors si on veut comprendre un petit peu de quoi on parle, il faudrait d'abord avoir une petite idée de ce que c'est qu'un appareil mobile. Alors, un appareil mobile, c'est en fait un peu comme une sorte de gros ordinateur, donc c'est la partie droite où on a un système sur une puce, donc c'est quelque chose qui rassemble un processeur, un CPU avec plein de petits composants électroniques autour qui font diverses choses, et puis ça c'est connecté à encore d'autres composants électroniques comme la RAM, du stockage, d'autres circuits intégrés pour plein de choses, un GPS, des capteurs, ce que vous voulez, des entrées-sorties utilisateurs. Donc ça c'est vraiment un côté qui va être comparable à ce qu'on a sur un ordinateur, et puis on a un autre élément qui est vraiment spécifique, c'est le modem. Alors le modem, c'est le composant qui est en charge de communiquer avec le réseau téléphonique, et c'est vraiment un truc qui est typique des appareils mobiles qui peuvent téléphoner en fait. Au niveau logiciel, ça se compose un petit peu pareil qu'un système d'exploitation classique sur les ordinateurs. On a ce qui s'appelle bootrom et chargeur de démarrage, ça va être un peu l'équivalent du BIOS. La bootrom, c'est le tout premier code qui est exécuté au démarrage par l'appareil. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de la puce et qui peut pas être modifié. Ce bout de code là va charger ce qu'on appelle un chargeur de démarrage, donc qui va initialiser plusieurs parties du matériel, qui va à la fin charger un noyau. Donc le noyau, c'est le noyau Linux, hein, c'est le truc qui vraiment contacte le matériel directement, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, on a l'espace utilisateur, donc avec des librairies d'abstraction matérielle qui sont un petit peu des drivers, si on veut, en espace utilisateur, parce que le noyau ne fait pas tout. Il y a quand même une partie d'implémentation qui se fait au niveau du système, au niveau de l'espace utilisateur. Puis on a des frameworks, c'est-à-dire des couches d'abstraction qui permettent en fait d'avoir des applications communes sur du matériel différent et d'avoir en fait un langage de communication avec le matériel unifié pour tous les appareils. Donc c'est ce framework qui permet ça. Et puis enfin, on a les applications qui donc elles utilisent directement les interfaces des frameworks pour avoir des applications justement indépendantes de chaque matériel. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Et puis si on regarde au niveau du modem, ben le modem lui, il exécute son propre système d'exploitation. On n'en sait pas grand-chose. On va voir ça. Bon, c'est un petit peu vague. C'est un système entier. Il y a vraiment, comme un système embarqué complet avec des applications, toutes ces choses-là. Et puis on a sur tous ces circuits intégrés qu'on a vu autour du matériel, on a des microcodes. Donc c'est des petits logiciels qui sont beaucoup beaucoup plus réducteurs qu'un système d'exploitation, des choses beaucoup plus simples et qui exécutent des tâches très spécifiques sur des microcontrôleurs en fait. Donc si on regarde tout ça, on peut se dire qu'est-ce que ce serait qu'un scénario idéal vis-à-vis à la fois du logiciel libre et de la vie privée. Bon, mais d'abord, on se dirait il nous faut un matériel libre. Alors on verra un petit peu après qu'est-ce que c'est qu'un matériel libre, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est une vraie question. Ensuite, on a ces microcodes dont on a parlé sur le matériel. Ben, ceux-là aussi, on aimerait bien qu'ils soient libres, on aimerait bien comprendre comment ils fonctionnent, pouvoir les modifier, toutes ces choses-là. Idem pour le système du modem, on aimerait bien qu'il soit libre. Bootrom, chargeur de démarrage, même histoire. Et évidemment, système et application, on a envie que ce soit libre. C'est particulièrement important. Des choses qui pourraient être sympathiques à avoir aussi, surtout au niveau de la vie privée, du respect des libertés, ça serait des garanties par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile. Donc, par exemple, un accès neutre à Internet, pas d'interception des données et évidemment pas de collecte de la position ou finalement d'autres informations. Et alors, si on regarde un petit peu toutes ces choses-là, bon, ça a l'air c'est bien beau, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, si on commence sur les opérateurs de téléphonie mobile, bon, la situation est vraiment pas géniale. La plupart du temps, on a des filtres. C'est particulièrement le cas sur de la VoIP, ça s'est beaucoup fait. Évidemment, tous les opérateurs gardent trace des messages et des appels. Ça, c'est pas dur à montrer. Hein. Quand je vais voir mon relevé chez mon opérateur, il me dit que j'ai envoyé tant de SMS à telle personne. Donc, c'est évidemment, il en garde la trace. Il sait qui j'ai appelé. C'est juste marqué sur ma facture, quoi. Collecte de la position, ça c'est, il y a eu plein d'exemples aux États-Unis des opérateurs américains qui donnent accès à des politiques ou aux agences de renseignement à la position de leurs abonnés en temps réel. Bon, c'est pas génial. Et puis on a toutes les données qui sont collectées là-dessus, qui sont aussi disponibles pour les agences de renseignement, certains politiques. Alors c'est pas génial, c'est vraiment loin d'être idéal. Évidemment, ça dépend de chaque opérateur, ça dépend des lois en vigueur, ça dépend du pays, du gouvernement, toutes ces choses-là. Mais bon, dans le cas général, on a plus d'exemples de mauvais cas que le contraire. Voilà, donc en résumé, c'est vraiment pas terrible. La solution, elle est évidemment politique. Il faut lutter pour avoir des lois plus respectueuses de nos libertés, de toutes ces choses-là qu'on voudrait bien voir. Pour revenir sur le côté appareil mobile, commencer par le matériel libre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait le matériel libre si on en parle, ça serait du matériel qui vérifierait grosso modo une sorte de transposé des libertés du logiciel libre. Donc, on pourrait étudier, modifier, toutes ces choses-là. Et si on se pose un peu la question, comment est-ce qu'on fait pour modifier du matériel ? En fait, il faut à chaque fois faire une nouvelle fournée, c'est-à-dire recréer une carte à partir du design modifié. Ça, c'est très compliqué déjà parce que ça coûte cher. Aussi parce que la plupart du temps, évidemment, on n'a pas les plans. C'est très très rare qu'effectivement les fabricants des cartes mettent à disposition les plans qui ont permis de les fabriquer. C'est parfois le cas. On a l'Arduino, c'est un exemple célèbre. Évidemment, on peut refaire un circuit imprimé de l'Arduino. Bon, très bien. Ça coûte un peu d'argent, mais la chose qui est vraiment importante, c'est finalement les circuits intégrés, c'est-à-dire les puces qui vraiment font le travail. C'est là vous en trouverez jamais les plans, et même si vous avez les plans, je veux dire le coût et les moyens techniques qui sont nécessaires pour produire des puces en silicone comme ça, c'est des choses absolument délirantes et il n'y a pas, enfin c'est absolument inconcevable pour un individu de refaire un processeur ou quelque chose comme ça. C'est bien trop complexe, ça demande des moyens bien trop élaborés. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est finalement le matériel libre, ça n'existe pas tout à fait à cause de ce problème avec les puces en silicone. Et quand c'est possible, au niveau des circuits imprimés, c'est vraiment jamais aussi simple que juste recompiler du code ou quelque chose qui peut vous prendre une demi-seconde. Voilà, donc le matériel libre, on en est loin encore. Il y a des choses intéressantes, hein. L'Arduino, c'est très bien comme initiative. Hein. Mais voilà, on n'y est pas. Pour ce qui est des microcodes, donc c'est ces petits bouts de logiciels qui s'exécutent à l'intérieur du à l'intérieur des circuits intégrés. Ben la plupart du temps, ils sont propriétaires sur la majorité des circuits intégrés. En fait, c'est même la plupart du temps pas possible de les remplacer dans le sens où ils sont préinstallés à l'intérieur du microcontrôleur et puis il y a rien qui nous permet de mettre une nouvelle version. Alors ces choses-là, on peut considérer que c'est du matériel ou on peut, enfin par exemple Richard Stallman vous dira que les microcodes qui sont préinstallés dans un microcontrôleur, c'est quelque chose qui est du matériel qu'on peut classer comme du matériel. C'est même plus du logiciel parce qu'on peut vraiment pas le réinstaller. Alors après c'est plus une question de j'en sais rien de comment on visionne la chose. Dans tous les cas techniquement ça reste du logiciel et on peut aussi bien dire que si ça ne peut pas être remplacé c'est nécessairement propriétaire puisqu'on ne peut pas exercer les libertés fondamentales. Et puis finalement quand ça existe c'est parfois le cas. Hein. Vous avez par exemple l'Arduino encore une fois ça exécute un microcode qui est libre, on a les sources et on a un moyen facile pour le réinstaller donc très bien. D'autres exemples, hein, le bus pirate, le Milky Mist One, des trucs peut-être un peu moins connus mais tout aussi intéressants. Donc ces choses-là c'est bien mais c'est quand même du matériel spécifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel matériel au hasard et puis dire tiens on va libérer le microcode et puis on verra bien ce que ça fait. En fait c'est une tâche techniquement qui est très très complexe qu'on ne réalise pas souvent. Donc finalement les seuls microcodes qui existent sont pour des plateformes spécifiques ou dans le cas très rare où les fabricants en fait libèrent eux-mêmes le code. C'est ce qui est arrivé pour l'ATH9KHTC, donc c'est une petite clé Wi-Fi, ce truc-là. En fait, le fabricant Qualcomm Atheros a décidé de publier le code source, et donc on a une clé Wi-Fi sur laquelle vraiment le code qui s'exécute dans le microcontrôleur est libre, et on peut le recompiler, le modifier, faire ce qu'on veut avec. Enfin, c'est génial. Sinon, dans la plupart des cas, ça reste quand même propriétaire, donc si on veut faire un petit résumé, la situation avance très lentement, parce que c'est techniquement très très complexe. Si on embraye sur le système du modem, alors celui-là, il est systématiquement propriétaire. Je vous ai dit tout à l'heure, on sait pas grand-chose en fait. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans absolument tous les appareils que vous utilisez, le système du modem est propriétaire. Il y a une pile GSM libre qui a été écrite par Harald Welt, donc c'est un développeur allemand qui fait vachement de choses au niveau de la téléphonie, vachement intéressante. Il a donc lancé OsmocomBB, qui est une implémentation libre de la pile GSM qui fonctionne sur certains modems, les Calypso, qui sont vieux par contre, et en fait la pile n'est pas encore utilisable, dans le sens où OsmocomBB a toujours besoin d'un ordinateur hôte pour fonctionner. Si vous voulez, la pile GSM c'est divisé en plusieurs couches et en fait il y a trois couches. Vous en avez une qui tourne sur le téléphone et les deux autres qui doivent forcément tourner sur un ordinateur hôte parce qu'elles nécessitent un petit système d'exploitation qui doit fonctionner sur le téléphone pour avoir tout ça ensemble et on n'en est pas encore là. Donc c'est pas quelque chose qui est tout à fait utilisable et dans tous les cas c'est vraiment du matériel un peu vieux. Et il y a également le problème de la certification et des réseaux publics parce que quand on écrit du logiciel qui s'exécute sur, qui émet directement sur des réseaux publics, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une certaine certification. C'est pas nécessairement un problème pour le logiciel libre, ça s'est déjà fait. Hein. Par exemple, si vous prenez ce truc Wi-Fi, bon, bah, ça exécute aussi du code qui gère des ondes, mais c'est certifié, il y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc ces petits problèmes-là. Pourtant, le système du modem, c'est quand même quelque chose qui est absolument critique pour la vie privée et la sécurité. Déjà parce que c'est absolument ou quasiment tout le temps connecté au réseau GSM. C'est le truc qui dialogue en permanence avec les antennes de votre opérateur. Ça veut dire qu'il peut y avoir nécessairement un contrôle à distance puisque votre truc, on peut lui envoyer des commandes par le réseau. Et si le logiciel qu'il exécute s'il est propriétaire et que le matériel lui-même a un accès à certains composants, donc ce qu'on appelle critique du téléphone, ça va être tout ce qui peut être utilisé pour vous espionner, donc ne serait-ce que la mémoire du téléphone, là où il y a vos données, ou la caméra, le GPS, le microphone, tous ces trucs-là qu'on peut utiliser pour vous espionner. Si le modem a accès à ça, qu'il exécute un logiciel propriétaire et qu'il peut être commandé à distance, c'est vraiment pas terrible. Pour la vie privée et la sécurité, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'on en vient à s'intéresser à ce qu'on appelle l'isolation du modem. C'est finalement dans notre schéma de tout à l'heure, la vue d'ensemble d'un appareil mobile. Si le modem est directement relié à toutes ces choses comme le GPS, la caméra, la RAM, on a un vrai problème et c'est ce qu'on appelle une mauvaise isolation du modem, dans le sens où il a accès à tout et ça c'est très mauvais parce que effectivement il peut être contrôlé à distance au travers des opérateurs de téléphonie mobile, mais également au travers des antennes malveillantes. C'est des choses qu'on peut voir par exemple. dans des grosses manifestations publiques, alors pas forcément en France, mais dans certains pays où les libertés seraient moins respectées, vous avez par exemple des camions avec des grosses antennes qui émettent, ben en fait c'est potentiellement des fausses tours GSM sur lesquelles votre téléphone se connecte, et en fait qui vont donner des ordres à votre modem pour lui dire de faire des choses pas très sympathiques, du style allumer le microphone et puis envoyer tout ce qu'il entend ou des choses comme ça. Donc c'est un vrai problème, l'isolation du modem c'est quelque chose d'absolument crucial. Donc là on a un exemple de très mauvaise isolation où le modem a accès à tout, et puis finalement on peut se retrouver dans le cas un petit peu inverse où le modem n'est vraiment directement qu'en contact avec le SoC, le système sur une puce. Dans ce cas c'est beaucoup mieux parce qu'il peut pas directement accéder à votre GPS si le système sur une puce n'est pas d'accord. Et on a évidemment plus de contrôle sur le système sur une puce, le CPU, en fait, on a plus de contrôle là-dessus que sur le modem. On le verra après, parce que les logiciels qui tournent sur le processeur principal, donc le SoC, sont généralement beaucoup plus libres. Donc on a cette situation-là. Donc finalement, la solution de contournement pour les problèmes de vie privée et de sécurité vis-à-vis du modem, c'est précisément l'isolation du modem. Donc on cherche à avoir une bonne isolation, on cherche à trouver des appareils sur lesquels le modem n'a pas accès à plus que nécessaire, donc c'est-à-dire une communication avec le processeur principal pour lui dire « tiens, t'as un appel ou t'as reçu un message », et deux trois trucs, genre l'audio quand il a besoin ou des choses comme ça. Mais on veut vraiment pas qu'ils puissent s'en servir pour espionner, et évidemment, ces choses-là, c'est bien pour la vie privée, c'est bien pour la vie privée, la sécurité, mais ça ne résout en rien les questions de liberté liées au fait que le système du modem est propriétaire et qu'on aimerait quand même comprendre comment il fonctionne, pouvoir le modifier, toutes ces choses-là. Donc c'est en fait un minimum qu'on essaie d'avoir, et malgré tout, ça ne permet pas d'éradiquer tous les problèmes de sécurité, parce qu'il y a encore plein d'autres moyens d'espionner l'utilisateur. En fait, même si le modem est bien isolé, ça n'empêche pas, par exemple, qu'on puisse trianguler votre téléphone de manière très précise. Voilà, ça c'est complètement indépendant de finalement du modem lui-même. C'est vraiment une propriété du système système téléphonique qui fait qu'on pourra de toute façon trianguler votre téléphone. Donc finalement la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que notre modem est isolé, dans quel cas il est isolé, sur quels appareils, bon, et en fait comment on fait pour savoir ça? On a vraiment surtout des indices, on n'a jamais vraiment de certitude. Ce qu'on peut avoir, c'est de la documentation fuitée qui va nous donner par exemple les schémas électriques de comment le modem est câblé avec le reste, et là on peut savoir s'il y a un câble directement qui va entre le modem et le GPS par exemple, on peut se dire bon ben voilà, c'est clair, il a accès au GPS. Par contre, quand c'est pas le cas, on peut pas vraiment avoir confiance dans le fait que ces plans-là sont les vrais, parce que vu qu'on n'a pas de matériel libre, on peut pas refaire une version de la carte qui sera conforme avec les plans qu'on a. Ça, on peut pas. On a la carte telle qu'elle est, on a des plans, et finalement, on peut pas vérifier qu'il y a une vraie correspondance. On peut par contre regarder d'autres choses, par exemple le noyau Linux, le code source. Qui vont nous indiquer très clairement, par exemple, si le modem et le processeur utilisent de la RAM pour partager, on sait que le modem a accès pour communiquer, pardon, on sait que le modem a accès à la RAM. Et ça, c'est une certitude. Donc pour le coup, on saura que dans ce cas-là, c'est mauvais. Il a accès à la RAM, c'est compromis. C'est pas bon. Et finalement, on en arrive assez vite à se poser la question simplement de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance dans la documentation qu'on nous a donnée ou pas? Bon, donc dans certains cas, en fait, on peut surtout savoir avec plus ou moins de certitude, mais quand même plus que moins, que c'est mauvais. Mais on peut pas vraiment savoir que c'est bon, qu'il y a une bonne isolation. Alors c'est un vrai problème. Donc finalement, si on doit résumer un petit peu la situation pour le modem, effectivement, c'est propriétaire, forcément. On peut pas y faire grand chose. On peut essayer de voir quand c'est isolé, mais on saura jamais de manière fiable que c'est isolé. Mais on peut quand même éviter certaines plateformes où par exemple le modem et le processeur sont sur la même puce. Là on peut avoir de très fortes suspicions quant au fait que le modem a accès à tout ce à quoi le processeur a accès, et vu que le processeur est relié à tout, s'ils sont sur la même puce, on peut se dire bon ben le modem aussi a accès à tout, et ça c'est mauvais. Et si on regarde un petit peu les téléphones simplistes, c'est vrai que moi j'entends parfois certains dire bon voilà, mon téléphone c'est pas un smartphone, c'est un truc tout bête, je sais que lui il fera rien de mal parce qu'il est beaucoup trop bête. En fait, faut savoir que ces trucs là généralement ils ont simplement un modem, ils ont pas de processeur principal, et ils exécutent entièrement que du logiciel propriétaire, ce qui veut dire que vraiment c'est très très mauvais pour la vie privée, parce que l'isolation du modem déjà est inexistante. Et évidemment, il y a des logiciels propriétaires partout, donc c'est vraiment, vraiment pas une bonne solution. Bon, on va attaquer maintenant un petit peu la partie logicielle sur le processeur principal. Donc, j'ai parlé un peu de la bootrom tout à l'heure. Donc, la bootrom, c'est un truc qui est inscrit dans la puce qu'on ne peut pas changer. C'est le tout premier logiciel à être exécuté. Donc, ce truc-là, il est pas remplaçable. On peut, si on veut, l'assimiler à du matériel. Dans tous les cas, on pourra dire que c'est propriétaire. Pour ce qui est de l'étape d'après du chargeur de démarrage, ça va vraiment dépendre de la plateforme en fait. On va avoir certaines plateformes qui permettent d'exécuter des chargeurs de démarrage libres parce qu'il en existe, de la même manière qu'on a des noyaux libres comme Linux, il y a des chargeurs de démarrage libres. Et bon, parfois il y en a plusieurs, il y en a 2-3 à la suite. Bon, si on a de la chance, les 2-3 sont libres, ça peut se faire. Le vrai problème qu'on va avoir par contre, c'est de la vérification de signature parce que de plus en plus on essaie d'avoir ce qu'on appelle un chain of trust. Donc essentiellement pour lire des choses avec des DRM, on va essayer de faire en sorte que tout le logiciel qui est exécuté soit vérifié et ne soit pas un truc que l'utilisateur a modifié ou a bidouillé. Et ça se fait en fait avec de la crypto en mettant une clé publique en fait dans le processeur qu'on ne peut pas changer. Et avec cette clé publique, en vérifiant la signature numérique de chaque logiciel qu'il exécute depuis le début, donc ça va commencer par les chargeurs de démarrage. Donc il va vérifier la signature de chaque chargeur de démarrage. Pour faire cette signature, évidemment, il faut la clé privée correspondante, clé privée que seul le constructeur détient et qu'il utilise pour signer les logiciels qu'il installe sur le téléphone, mais que nous, évidemment, on n'a pas. Donc dans cette situation-là, si nous on veut installer un chargeur de démarrage libre, et ben vu qu'on n'a pas la clé privée, on va compiler notre truc, même s'il a tout le code qu'il faut pour que ça marche, on va l'installer. Mais la bootrom va nous dire, écoutez non, ça ne fonctionne pas parce que vous avez pas la bonne signature, donc je refuse de l'exécuter et voilà, ça fait un truc qui fait rien finalement, il s'arrête là et bon. Donc c'est un vrai problème pour la liberté, ça nous empêche complètement d'avoir des chargeurs de démarrage libre. Mais il existe quand même certaines plateformes qui permettent ça, donc c'est ce qu'on appelle les bonnes plateformes. Donc vous avez l'IMX de Freescale, les Allwinner, donc c'est des puces chinoises qu'on trouve sur pas mal de tablettes pas très chères. Et vous avez l'OMAP de Texas Instruments et le Tegra de Nvidia. Alors ces deux-là, en fait, ils existent en deux versions. Il y a une version qui vérifie les signatures, une version qui vérifie pas les signatures. Donc c'est toujours un peu du loto, on sait pas... Bon, sur la plupart des produits commercialisés, ils vérifient les signatures, mais il y a quelques exceptions où ils se sont dit, tiens... On va pas faire ça. Par exemple, pour l'OMAP, vous avez la première version du Kindle Fire, c'est une tablette faite par Amazon, où ils ont pris la version, ce qu'on appelle GP, donc c'est General Purpose, qui ne vérifie pas les signatures. Il y en a d'autres, donc c'est des choses intéressantes sur lesquelles on peut avoir des chargeurs de démarrage libre et bon, qui nous plaisent. Pour autant, la vérification de signature, c'est un truc très commun sur tous les téléphones du commerce, c'est ce qui se passera dans la plupart des cas. Et les chargeurs de démarrage propriétaires sont aussi très communs, même si en fait on a des logiciels libres comme U-Boot qui prennent en charge vraiment un grand nombre de plateformes et avec lesquelles on peut faire quand même pas mal de choses. On en arrive enfin au système d'exploitation, toujours sur le processeur principal. Donc le système d'exploitation, c'est le truc gros qui coordonne tout, qui a accès à tout en fait, à chaque circuit intégré, et puis finalement aussi aux données de l'utilisateur, à tout ce qui stocke et aux communications. C'est donc enfin les deux parties vraiment importantes pour la vie privée et la sécurité. Et ces trucs-là sont aussi importants pour le logiciel libre parce que si on veut bidouiller, ben en fait c'est plutôt ces choses-là qu'on va vouloir modifier parce que c'est ça qui interagit directement avec l'utilisateur. Donc si on veut exercer notre droit de modifier, bon ben c'est plutôt vers ces choses-là qu'on va regarder d'abord. Donc c'est vraiment très important pour la liberté. Et si on regarde un peu la situation aujourd'hui, ce qui se fait, bon, mais on a plusieurs systèmes à peu près libres, bon, plutôt libres. Donc on a Android, tout le monde connaît, Firefox OS qui est arrivé il y a un petit moment déjà, Ubuntu Touch, Tizen, OpenWebOS, bon, c'est des trucs qu'on connaît un peu dans le monde du libre. Des systèmes évidemment plutôt propriétaires que tout le monde connaît aussi, bon, l'Apple iOS, Windows Phone, des trucs. Voilà, ceux-là, ils sont vraiment propriétaires, ils nous intéressent pas, on sait qu'on n'en fera jamais rien de très, très intéressant pour la liberté et la vie privée. Alors si on regarde ces trucs-là, ils sont toujours un petit peu composés de la même façon. On a un noyau, c'est bon le noyau Linux hein, sur tous ces trucs-là. On a des librairies d'abstraction matérielle, donc c'est en fait ce que j'expliquais un petit peu avant, des sortes de drivers, mais qui sont dans le système, pas dans le noyau, qui sont en espace utilisateur et bon, qui font quand même des choses. Ces trucs-là, la plupart du temps, sont propriétaires. Ça, c'est un vrai problème, parce que c'est ce qui contrôle la plupart du temps l'accès au matériel. Essentiellement, ça va être tous les trucs qui nous intéressent, comme caméra, capteur, accélération 3D, toutes ces choses-là, ce sera des librairies d'abstraction matérielle qui, la plupart du temps, seront propriétaires. Et puis on a ces frameworks et ces applications que j'ai déjà un petit peu mentionné tout à l'heure. Bon, framework, application, la plupart du temps c'est libre, hein, sous Firefox OS, sous Android, sous tout ce que vous voulez, pas de problème. C'est pas, de toute façon, c'est pas très dur à écrire. Il y a pas beaucoup de savoir là-dedans. C'est juste une implémentation, voilà. Puis des applications qui font des choses. Bon, mais il y en a toujours des libres, des pas libres, sous Android. Bon. Alors, si on regarde un petit peu l'ensemble de la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, on n'a pas de matériel libre, ça c'est clair. On a des composants forcément propriétaires dans les circuits intégrés, on n'y peut pas grand-chose, avec quelques exceptions quand même. On a donc les systèmes du modem qui sont toujours propriétaires, on essaie d'améliorer la situation en trouvant de l'isolation, sachant que bon, on peut jamais en être sûr. Des boot ROM qui sont à l'intérieur des puces, pareil, qu'on peut pas modifier, bon, on dirait que c'est propriétaire. Donc dans les bons points, il y a effectivement l'isolation du modem. Il y a les chargeurs de démarrage. Si on choisit bien les plateformes, si on prend les bonnes versions des puces, on pourra avoir des chargeurs de démarrage libres. Donc c'est intéressant. On a des systèmes essentiellement libres. Donc il y en a bon 4-5, c'est pas mal. Il y a quelque chose. Des applications libres, ça existe. Bon, c'est très bien. Pourtant c'est quand même imparfait. C'est loin d'être une liberté totale. On est loin d'avoir un vrai respect entier de la vie privée, de la sécurité. Pour ça qu'on dit généralement, s'il y a une vraie activité sérieuse ou si on n'est pas prêt à faire de compromis, bon, mais c'est simple, il faut pas s'en servir et on s'arrête là, quoi. Sinon, évidemment, il faut accepter des compromis parce qu'on aura toujours, bon, voilà, ces trucs qui seront pas forcément libres. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Moi, je viens de vous parler de réplicantes quand même. Alors, on va pas tarder à embrayer là-dessus. Finalement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était vers 2008. On en était où? Ben on avait ça. Vers 2008, c'était le tout début d'Android. On avait un truc qui s'appelle l'OpenMoko FreeRunner qui venait de sortir. Alors c'est en fait un téléphone qui a été fait bon par une entreprise avec vraiment la volonté de faire un appareil entièrement libre qui puisse téléphoner. Alors bon, super. À l'époque, tout le monde était vachement content. Ils en ont produit une bonne quantité. Il y a pas mal de gens qui en ont. Enfin bon, c'est pas la même proportion que ce qu'on a dans mainstream ou des choses comme ça, mais quand même une bonne quantité. Donc c'était un truc vachement intéressant avec un chargeur de démarrage libre, avec ça faisait tourner une Debian, donc des logiciels libres. Ils avaient écrit tous les drivers qu'il faut, tout était libre. Enfin c'était bien. Évidemment il y avait quand même le système du modem qui était propriétaire, évidemment une boot ROM propriétaire, évidemment des microcodes propriétaires dans les circuits intégrés, chose auxquelles on peut rien. Mais finalement tous les points qu'on pouvait faire bien, ils les ont fait bien et on avait quelque chose de voilà qui était quand même au-dessus du reste quant à la liberté, au respect de la vie privée. Tout ça. Et puis finalement, on a eu la même année Google qui a lancé Android avec donc le HTC Dream. C'était le tout premier téléphone Android qu'ils ont sorti. Et ce truc-là est bon moins intéressant parce que le chargeur de démarrage est propriétaire, il est signé. Évidemment, tous les autres trucs, boot ROM, système du modem, microcode, tout ça propriétaire évidemment. Dans Android, on s'est rendu compte qu'il y avait donc ces librairies d'abstraction matérielle qui étaient propriétaires pour ce téléphone. Et d'autres trucs qui étaient propriétaires, bon, des applications propriétaires qui mettaient avec. Donc finalement, c'était quand même vachement moins bien que l'OpenMoko, mais c'était plus récent, et il y a plein de gens qui ont trouvé ça bien, ça a intéressé plein de développeurs. Donc il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, ce Android, ça a l'air sympa, on va regarder ce qu'on peut faire avec. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'est né Replicant. On a donc des gens qui avaient un intérêt pour ce truc-là, et qui se sont dit, bon, ben on va voir si on peut le libérer... Voilà, essayer d'enlever des composants propriétaires, voir ce qui marche pas, et ce qu'on va en faire. Et puis finalement, Android, au fil du temps, c'est devenu une vraie famille de systèmes d'exploitation. Ça a plus tellement de sens de dire qu'il y a un Android, c'est vraiment une famille, il y en a plein de différents en fait. Il y a d'abord la version qui est développée en interne chez Google, ce qu'on appellera l'Android de Google, et bon, cette version-là, elle reste chez Google. Hein. Et puis parfois, il la sort dans ce qu'on appelle AOSP, donc c'est l'Android Open Source Project. Là, ils libèrent leur code, ils mettent accessible au public et généralement, il est entièrement libre. Alors, on va faire un petit peu dans le détail en quoi il est entièrement libre. Et puis, on a aussi l'Android des fabricants. Donc ça, c'est tout ce qui va être les gros, hein, LG, Samsung, toutes ces choses-là, Sony Ericsson. Bon, ceux-là, ils vont directement servir chez Google. Ils prennent le code un petit peu avant qu'il soit public et puis ils font leurs appareils avec les nouvelles versions. Comme ça, ils sont contents, ils ajoutent leur surcouche et tout ça. Et puis finalement. Finalement, ceux-là, ils mettent jamais à disposition le code qu'ils ont modifié, donc on en arrive à avoir des choses qu'on appelle des versions d'Android propriétaires, parce que bon, voilà, grossièrement, ils diffusent pas de code, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Ça ressemble à un Android, ça ressemble à OSP, mais bon, on n'a pas de code source, donc on dirait que c'est propriétaire. Et puis finalement, à partir de Donka OSP, qui est la version libérée d'Android par Google, il y a plein de versions communautaires qui utilisent ça et qui l'exécutent, qui le font tourner en fait sur plein d'appareils, donc essentiellement les appareils du commerce. Donc vous allez avoir Cyanogen Mode, Omni, bon, il y en a autant qu'on veut. Donc ces trucs-là, ils prennent le code d'AOSP, ils le font s'exécuter sur d'autres appareils. Bon, c'est assez intéressant, mais ces trucs-là, ils sont, on va dire, plutôt libres. Parce qu'ils sont en fait pas entièrement libres. Et si on regarde, dans ces versions communautaires, il y a aussi Replicant. Et donc Replicant, ça va être la version entièrement libre d'Android qui s'exécute sur les appareils mobiles. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, AOSP, donc c'est le truc entièrement libre de Google, ça prend en charge que les appareils Nexus, donc ceux que fabrique Google avec d'autres fabricants, mais qui sont vendus sous la marque Google. Donc ceux-là sont partiellement pris en charge dans AOSP, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de drivers libres, et puis il y en a d'autres qui le sont pas, et puis ils nous mettent le nom, ils nous disent, bon, ben voilà, tel truc, il est pas libre, il faut qu'il y soit, et ils le distribuent à part, en fait. C'était vrai jusqu'à il y a pas très longtemps. Maintenant, ils ont tendance à mettre les composants propriétaires aussi dans AOSP, ce qui fait que c'est plus tellement entièrement libre, mais bon, historiquement, ça, c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus. Et donc, sur ces appareils, on peut pas vraiment l'exécuter, ça fonctionne pas, parce qu'il manque tous ces composants propriétaires, donc librairie d'abstraction matérielle, des démons, ça peut être des microcodes à charger, toutes ces choses-là. Et puis dans les versions communautaires d'Android, donc ils prennent ce code d'AOSP, ces versions-là, elles incluent aussi, elles vont inclure tous ces composants propriétaires qui sont nécessaires, parce que ces versions-là, ils ont envie de faire un truc fonctionnel, donc ils distribuent avec tous les composants propriétaires. Parfois, ils incluent des applications propriétaires aussi. Dans Cyanogen Mode, pendant longtemps, vous aviez un truc qui s'appelle, je sais plus, backup quelque chose, et qui était propriétaire. Mais comme le développeur était un petit peu était dans l'équipe de développement de Cyanogen Mode, bon, il a fait rentrer ça, et du coup, il y avait une application propriétaire dans Cyanogen Mode, ce qui est pas terrible. Hein. Et puis parfois, ils encouragent l'utilisation des applications Google, ce qu'on a appelé le Google Market, enfin l'Android Market, qui est devenu le Google Play Store, donc tous ces trucs-là, YouTube, enfin toutes les applications qu'ils mettent. Y a pas mal de systèmes communautaires qui encouragent à utiliser ça. Ils peuvent pas vraiment les distribuer avec, parce qu'ils ont eu des petits soucis légaux, parce que ces applications sont propriétaires, donc à la base on peut pas les redistribuer comme on veut, évidemment. Et parfois, il y en a certains qui incluent des fonctionnalités malveillantes, plus ou moins volontairement. Par exemple, si Cyanogen Mode, on sait que ils vont dire au serveur de Google, tiens, il y a tel utilisateur qui a commencé à utiliser Cyanogen Mode sur son téléphone. Nous, on considère ça comme une fonctionnalité malveillante, parce que bon, c'est du flicage, on trouve pas ça terrible. Et donc finalement, on en vient à ce que c'est que Replicant. Alors, les idées vraiment fondatrices du truc, c'est de faire un Android entièrement libre, donc de ne pas utiliser tous ces composants propriétaires que les autres versions communautaires utilisent, mais pourtant de garder un système utilisable, c'est-à-dire pas juste faire un truc théorique qu'on peut compiler, mais que si on l'installe, ben ça marche pas parce qu'il manque des drivers. On veut quand même un truc qu'on peut utiliser tous les jours et que bon voilà, que moi j'utilise, qu'on ait certains un petit nombre à utiliser tous les jours, donc bon, un truc qui fonctionne quoi. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on remplace donc ces composants propriétaires. Puis si on peut pas les remplacer, on les supprime et puis tant pis, ça marche pas. Par exemple, pour le GPS, c'est le cas. Les puces GPS, c'est un truc vachement compliqué. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Et j'ai pas réussi à écrire d'implémentation libre. Bon, ben désolé, ça marche pas. On va pas mettre le composant propriétaire parce qu'on ne veut pas, précisément, on ne veut pas encourager l'utilisation de logiciels propriétaires. Et donc, on ne veut ni les distribuer, ni dire aux gens, il faut l'installer pour que ça marche. Voilà. On veut vraiment rester éthique et ne pas encourager ces choses-là. Et évidemment, les fonctionnalités malveillantes, vu que c'est du code libre, ça coûte pas bien cher de les désactiver, de les enlever, donc on essaie de faire ça tant qu'à faire. Sur un point de vue technique, en fait, on n'est pas directement dérivé d'AOSP, c'était le cas jusqu'à la version 1.5, donc c'est un petit moment quand même déjà. On est passé sur Cyanogen Mode, donc une autre version communautaire, qui en fait prend en charge beaucoup plus d'appareils que AOSP, parce que souvenez-vous, AOSP, ça prend juste en charge les appareils Nexus de Google. Sur Cyanogen Mode, vous en avez, je sais pas, peut-être 10, 20 fois plus. C'est plus intéressant pour nous si on veut pouvoir prendre en charge plus d'appareils en fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le distribue avec F-Droid, qui est en fait un dépôt d'applications libres, donc on pourrait voir ça comme une alternative au Google Play Store, en fait, à travers laquelle vous avez que des applications libres, et l'application, évidemment, elle-même est libre. Donc voilà, c'est pratique, on distribue ça, et c'est génial. Finalement, par rapport au développement, c'est un développeur, moi, sur mon temps libre. Donc ça avance à la vitesse avec laquelle ça avance, c'est-à-dire pas très vite en ce moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie le code source, évidemment, de CyanogenMod. J'enlève les fonctionnalités malveillantes, tout ce qui est aussi on adapte, hein, tout ce qui est bon, les trucs un peu idiots, les logos, les choses comme ça. Bon, on n'a plus envie que ça dise vraiment CyanogenMod. On garde quand même toutes les fonctionnalités qu'ajoute CyanogenMod parce que eux, ça leur fait plaisir de faire des interfaces plus jolies avec plus de fonctionnalités, plus de configurations. Non, mais tout ça c'est très bien, on le garde, on est content. C'est bien pour nous aussi. De toute façon, tout est libre, alors. Voilà, ça c'est bien. Et puis dans le travail que je fais, j'en viens à essayer de comprendre comment marche le matériel avec pas beaucoup de documentation, avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on peut. Et puis je travaille sur donc pas mal d'aspects différents. Là où sont les composants propriétaires. Donc souvent c'est des choses style audio, caméra, ouais, modem, capteur. Bon, c'est vraiment les trucs systématiques qui sont propriétaires sur à peu près chaque appareil et que on doit à chaque fois. Que je dois regarder bon comment celui-là il marche, comment on fait pour lui faire jouer du son ou pour prendre une photo, bon voilà toutes ces choses-là. Donc ça se fait comment? En fait, ça se fait en faisant de l'ingénierie inverse, en regardant comment fonctionnent les composants propriétaires, en regardant ce qu'ils font, en prenant des traces, en analysant. Bon, il y a plein de techniques, c'est vachement intéressant. Et à la fin, on en arrive à se dire bon, mais voilà, il fait ça de telle manière, donc je vais écrire moi une implémentation libre qui fait la même chose. J'écris mon code et tout ça c'est légal, hein, parce qu'en Europe pour l'interopérabilité, donc c'est le cas ici, on a le droit de décompiler des logiciels propriétaires, donc c'est clairement en désaccord avec la licence. Hein. La licence dit toujours, on peut pas décompiler le logiciel, il faut surtout pas chercher à comprendre comment il marche. Bah, en Europe, on a le droit, donc je le fais, c'est très bien. Ça me permet d'écrire donc ces remplacements libres. Mais je le fais pas pour tout, il y a certaines tâches qui sont vraiment hyper spécifiques. Par exemple, l'accélération graphique. Donc il y a des projets comme FreeDreno et Lima, donc c'est des gens vraiment hyper calés en accélération graphique, qui savent ce qu'ils font et donc qui là écrivent des drivers pour donc des GPU spécifiques qui sont sur ces puces. Les microcodes, donc ce qui est exécuté sur les circuits intégrés, ça c'est pareil, c'est un truc techniquement très compliqué, ça peut prendre vachement de temps rien qu'à savoir comment on fait pour exécuter du code, quelle architecture il faut utiliser. Enfin, c'est des choses vraiment hyper pointues. Donc ça, je m'y aventure pas. Évidemment, le système du modem, bon, c'est un système entier à remplacer. C'est absolument imbuvable. Enfin, Smokom BB est un projet dédié à ça et ça avance même. Bon, ça avance, hein, mais ça prend du temps. Ça prend des gens très pointus là-dedans. Donc tout ça, on laisse un petit peu tomber. Mais bon, finalement, on a quand même écrit. J'ai quand même écrit pas mal de remplacements libres pour pas mal de choses. Par exemple, le RIL, donc c'est la partie qui dialogue avec le modem. Parce que même si le modem est propriétaire, parfois le protocole qu'il utilise pour communiquer avec le processeur principal lui-même n'est pas documenté. On ne sait pas comment lui dire, par exemple, tiens, on voit un SMS ou. Alors ces choses-là, il faut le comprendre à partir du logiciel propriétaire qui existe déjà. Et donc, une fois qu'on l'a compris, on écrit une implémentation. Donc là, ce qui s'appelle le RIL. Donc un truc dans notre cas qui fait à peu près 30 000 lignes, qui a pris, je crois qu'on a dû commencer en 2011, un truc comme ça, qui marche, hein, maintenant, bon, il n'y a pas de problème, je loupe plus d'appels, on peut envoyer des milliers de SMS sans que ça crache, c'est super. Là, sur 9 appareils, donc c'est pour les Samsung, en fait, ils marchent tous à peu près pareil, donc quand on a compris pour l'un, on a à peu près compris pour tous ceux qui sont sortis à peu près au même moment. Donc ça fait du code commun, on essaie de faire ça pour pas avoir à tout réécrire à chaque fois. Pour la caméra, pareil, il y a un truc assez intéressant sur les Galaxy S2, Galaxy Note, des trucs qui se ressemblent et sur lesquels j'ai bossé, pareil, pour écrire une implémentation libre. Comment on fait pour prendre des photos sur ces trucs-là, comment ça marche. Et donc bon, on écrit du code et puis ça marche. Audio, pareil, bon, ces choses-là, ça fait quand même pas mal de lignes à écrire, ça prend du temps. Hein. Capteur aussi, c'est vachement intéressant, il y a pas mal de trucs. Ça fait toucher un peu des concepts physiques et tout ça. Bon, c'est toujours des trucs assez intéressants à écrire, en fait. Et bon, voilà, donc c'est ces choses-là qu'on fait, en fait, techniquement. C'est à ça que ça ressemble. Et puis, bon, j'ai de la chance, il y a quand même d'autres gens qui sont un petit peu intéressés, d'autres communautés de développeurs. Donc, il y a Tim Aksung, c'est les gens qui, dans le temps, prenaient en charge les téléphones Samsung pour CyanogenMod. Donc, c'est eux qui écrivaient le code. Ils utilisaient beaucoup de composants propriétaires, mais ils avaient quand même un bon état d'esprit. Ils disaient, ah, ça serait mieux si c'était du logiciel libre. Et bon, parfois, il y en a qui essayaient, qui disaient, tiens, allez, je vais essayer de comprendre comment ce truc-là, il marche. Bon, ils y arrivaient pas. Mais finalement, en y allant ensemble, en se disant, bon, moi j'ai compris ça, peut-être que toi tu peux bosser sur tel truc, et puis on collabore, on coopère, et puis on en arrive à avoir des trucs qu'on écrit un peu ensemble, et c'est vachement sympa. Du coup, on a des choses que ces communautés-là ont écrites qui se retrouvent dans Replicant, ou des choses que moi j'ai écrites pour Replicant qui se retrouvent dans leur code à eux, donc tout le monde est content, on collabore, c'est vachement bien. Évidemment, pour nous, l'avantage, c'est que c'est meilleur pour la liberté. Pour eux, c'est aussi que c'est parfois meilleur techniquement parce que les implémentations propriétaires sont écrites rapidement parce qu'il faut sortir un logiciel. Enfin, il faut sortir un logiciel sur un matériel qu'on veut vendre très vite. On n'a pas le temps de. Bon, c'est stable hein, quand même. Leur truc qui marche toujours évidemment, mais bon, c'est développé un peu dans le rush et bon, ça n'a pas nécessairement la même qualité qu'un logiciel libre qui est revu, qui prend 6 mois à être accepté. Voilà, bon. C'est pas les mêmes standards et du coup il y a des gens qui trouvent un certain intérêt à ça parce que c'est meilleur. Et il y a aussi un gros avantage, c'est que ça permet, j'en parlais un petit peu au début, ça permet de suivre les versions d'Android parce que dans beaucoup de cas les anciens appareils Android ne sont plus pris en charge par de nouvelles versions, par exemple de CyanogenMod, parce qu'on avait des composants propriétaires à la base, mais les interfaces ont changé, les API ont changé. Et finalement, on peut plus exécuter ces composants propriétaires parce que voilà, tout ce qui est autour a changé, ça ne marche plus. Si c'était libre, eh ben, il suffirait de changer dans le code les interfaces et ça prend un patch, je sais pas, 50 lignes et puis c'est bon quoi. Puis ça fonctionne. Donc pour eux, il y a un vrai intérêt là-dessus aussi pour pouvoir faire suivre les nouvelles versions d'Android. Alors si on en revient un petit peu à Replicant, alors là où on en est aujourd'hui, on est basé sur la version 4.2 donc d'Android au travers de CyanogenMod sur en tout 12 appareils différents. Ça paraît peu, mais bon, faire du travail individuellement sur chacun pour écrire des drivers, ça prend du temps. On travaille donc essentiellement sur des Nexus de Google et des Galaxy de Samsung, pour des raisons diverses, parce que c'est plus simple pour installer un autre système, parce qu'il y a moins de composants propriétaires à remplacer. On a toujours un certain nombre de critères qu'on évalue avant de décider si on prend tel téléphone en charge sur Replicant. Et puis évidemment, c'est des trucs qu'on peut utiliser, donc on a toujours une interface assez fluide, l'audio qui fonctionne, on peut passer des appels, bon, très bien. Donc on a tout cela qui sont quand même loin d'être parfaits parce que les chargeurs de démarrage sont propriétaires et signés. On pourrait faire mieux, mais il se trouve que dans ces téléphones-là, qui sont des téléphones mainstream du commerce qu'on trouve partout, c'est la norme, c'est ce qui se fait. Les chargeurs de démarrage sont signés et propriétaires. Donc pas de chance. On peut supposer que sur cela, l'isolation du modem est bonne, parce que en fait, on a regardé la documentation, ces choses-là, on n'a pas trouvé d'indices qui nous disent que c'est mauvais. Ça veut pas dire que c'est forcément bon, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que c'est mauvais. Ce qui est mieux que d'être sûr que c'est mauvais. Comme c'est le cas pour ceux d'après, où là, Nexus S, Galaxy S, sur ces trucs-là, on sait que le modem a accès à la RAM, et donc, voilà, c'est un vrai problème de sécurité. Et toujours aussi, chargeur de démarrage propriétaire assigné, bon, ça change pas. On en a d'autres plus intéressants, le Gold Helico GTA 04. Alors, c'est un truc qui est fait par une entreprise allemande et qui en fait est un successeur à l'OpenMoko, donc qui est le truc qui est sorti en 2008, et qui reprend un peu la même idée. Et donc ça, on essaie de le prendre en charge avec Replicant parce que ça a un chargeur de démarrage libre. L'isolation du modem, pareil, est supposée bonne parce que là, on a un vrai accès aux documentations. Et je veux dire, le gars qui fait ça, bon, on le connaît, on sait qui c'est. Bon, voilà, on peut peut-être plus lui faire confiance qu'une grosse boîte comme Samsung. Enfin, voilà, quand on a bu une bière avec le gars, c'est plus, on se sent plus en confiance. Voilà. Donc on en est à un début de prise en charge, tout n'est pas encore fait, c'est bon, encore une fois, même chose, c'est fait sur mon temps libre, j'ai 12 appareils à prendre en charge, enfin plus en fait. Donc ça avance comme ça avance, tranquillement, mais bon, les protocoles sont bien documentés, il n'y a pas beaucoup de reverse d'ingénierie inverse à faire, même pas du tout en fait. Donc on est là, on a juste à écrire du code, on sait que c'est faisable, bon, il faut le faire, on le fait tranquillement, donc ça viendra. Et puis finalement, là où on en est vraiment aujourd'hui, je voulais avoir de nouvelles images à mettre à disposition aujourd'hui. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps. Dernièrement, ce que j'ai fait, c'est une réécriture donc de Samsung Reel, c'est la partie qui communique avec le modem. Donc un truc que j'ai réécrit complètement pour la stabilité, parce que ce que j'avais commencé à écrire en 2011, quand j'étais peut-être en troisième au collège, bon, j'avais peut-être pas les mêmes capacités, la même compréhension du C ou de la programmation, il y avait certains trucs qui étaient vraiment plus possibles. Donc j'ai commencé vraiment une réécriture et là, bon, c'est stable hein, maintenant. J'ai envoyé quelques milliers de SMS dans le temps où j'ai testé. Bon, ça a l'air d'aller, donc on va envoyer ça, on va distribuer des images avec donc ce nouveau truc et puis ajouter des correctifs de sécurité. Bon, ça fait pas de mal, c'est toujours bien. Et puis ce qui va se passer après, en fait, ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, déjà, on va rester sur la version 4.2 pendant un moment parce que c'est toujours un travail interminable de passer sur une nouvelle version d'Android. Parce que nous, il faut qu'on amène toutes nos modifications sur la nouvelle version. C'est de plus en plus gourmand en ressources, notamment graphiques. Sachant qu'on n'a pas d'accélération graphique sur aucun des appareils avec Replicant, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un système fluide et utilisable. Sur la version 4.2, on s'en tire pas trop mal, donc on va peut-être rester là un petit moment. Et puis je vais essayer de me concentrer sur des appareils qui sont un petit peu plus respectueux de la liberté et de la vie privée. Au niveau de la liberté, donc c'est le GTA 04 et l'Optimus Black qui en fait lui aussi permet d'exécuter des chargeurs de démarrage libres et non signés. Donc on en profite, je suis en train de porter U-Boot qui en fait est le chargeur de démarrage libre de référence sur ce téléphone-là, l'Optimus Black. Donc voilà, c'est un boulot, ça se fait en ce moment. D'ici quelques mois, on pourra démarrer Replicant là-dessus avec un chargeur de démarrage entièrement libre. Ce sera vraiment bien, quoi. Et puis on a aussi un certain intérêt pour la vie privée à utiliser des tablettes qui en fait n'ont pas de modem, des choses uniquement Wi-Fi. Ça, c'est intéressant parce que si on n'a pas de modem, on n'a plus tous ces problèmes de contrôle à distance, d'accès au matériel, de logiciels propriétaires qui s'exécutent dedans. Tout ça, on l'enlève. Bon, il reste quand même des problèmes, hein. Il y a toujours des composants propriétaires dans les circuits intégrés, ces choses-là. Toujours une boot-ROM propriétaire. Mais bon, on a beaucoup moins de problèmes par rapport à la vie privée. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des gens de Tor qui sont vachement intéressés par ces trucs-là aussi, qui aimeraient un petit peu avoir une version d'Android un peu fiable, sans composants propriétaires là-dessus. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur les Allwinner. Donc c'est ces tablettes chinoises qui ont en fait une plateforme donc qui s'appelle Allwinner, qui est vachement bien pour les chargeurs de démarrage. Kindle Fire, donc c'est la plateforme OMAP de Texas Instruments qui dans ce cas-là permet d'exécuter des chargeurs de démarrage libres. La Nexus 7 qui est vachement populaire, vachement connue. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Et donc tout ça, si on pouvait aussi, avec tout ça, si on pouvait aussi ajouter des améliorations pour la vie privée, bon bah, ça serait pas mal aussi. Alors ça prend du temps, bon, on verra ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce que je suis le seul développeur et que ça avance pas aussi vite qu'on aimerait. Que donc s'il y a des gens que ça intéresse de faire de l'ingénierie inverse, de comprendre comment tous ces trucs-là fonctionnent, et si vous avez du temps et. Et en fait, il n'y a pas forcément nécessairement besoin de beaucoup de qualifications. Moi, quand j'ai commencé ça, je savais pas programmer. J'étais vraiment un novice, mais je trouvais ça tellement passionnant qu'en fait, bon, ben, on lit du code. Au début, on comprend pas trop. Et puis, plus ça vient, et plus on voit comment ça fonctionne. Et puis, si on est un peu autodidacte et qu'on a un vrai intérêt pour le truc, si on a du temps à y passer, ben, on peut vite en arriver à faire des choses assez balèzes. Bon, c'est gratifiant, on apprend des choses. C'est si on a le temps, c'est si on a le temps et que ça nous intéresse, c'est vraiment super, quoi. Faut pas hésiter. Et puis sinon, on peut aussi toujours nous faire des dons. C'est toujours bienvenu parce que les appareils, ça coûte cher. Et avec mon petit budget d'étudiant, bon, acheter 12 téléphones, pas forcément toujours possible. Donc c'est pour ça qu'on accepte des dons toujours, donc c'est bienvenu. Si vous voulez en apprendre plus, donc on a un site web www.replicant.us. Bon, c'est en anglais, mais il y a un petit peu tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui qui est résumé sous la forme d'une belle page. Vous avez aussi quelques questions assez fréquentes qui sont là. On a un blog donc pour l'avancement du projet, ces choses-là. Un wiki tracker, donc si vous utilisez Replicant, que vous trouvez des bugs, ben c'est bien de nous le faire remarquer. Un wiki avec donc toutes les infos pour comment on installe Replicant, des trucs pour l'utiliser, comment on fait ça, comment on fait d'autres choses, comment le compiler aussi parce que c'est un logiciel libre. Alors c'est bien de pouvoir le compiler. Donc on a toutes les explications qu'il faut. On a une petite communauté bon qui grandit tranquillement, c'est sympa. Il y a des permanents sur notre canal IRC par exemple. On a pas mal de gens, on commence à connaître, bon c'est toujours assez sympa. Donc on a forum, liste de diffusion et canal IRC Replicant sur Freenode. Et on a donc un stand là, au cours du Capitole du Libre. On est juste à l'entrée. Donc si vous voulez passer, nous dire bonjour, discuter un peu, bah, ça sera avec plaisir. Voilà, mais merci à vous. Oui, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Ouais. Ah, je crois que tu peux me tutoyer.
Oui, c'est vrai. Dès qu'il est signé, tout ça, ouais. Par exemple, les iPhones, ils ont été jailbreakés. Il n'y a pas moyen de faire ça sur d'autres...
Ouais, alors, le jailbreak, je ne connais pas exactement les détails, mais je ne suis pas entièrement convaincu que c'est qu'ils ont cassé des clés. Parce que casser des clés, c'est quand même très très dur. Ouais, après, voilà, il peut y avoir des failles d'implémentation. Potentiellement, ouais, ça peut être possible. Je connais quelques projets des gens qui ont essayé des trucs un peu fous pour avoir les clés privées, genre en démontant le matériel, en regardant avec des microscopes et en essayant de voir. Il y a des gens qui arrivent à des trucs avec ça. Hein, c'est... Alors, je me souviens plus trop. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui font ça. Alors bon, c'est hyper technique. Hein, c'est des gens, c'est des fous furieux. Mais bon, ouais, ça se fait. Ouais. Ouais, exactement.
Donc,
c'est
pas normal qu'on soit obligé de faire quelque
chose. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais en fait, ces dispositifs de sécurité-là, comme je l'ai dit, en fait, c'est beaucoup pour les DRM, quoi. C'est beaucoup pour pouvoir. C'est pas nécessairement de la sécurité pour l'utilisateur. Et ça peut être bien fait. Hein. Si vous lisez le blog de Matthew Garrett, il va vous expliquer plein de choses sur comment on peut bien implémenter du Secure Boot, des choses comme ça. Ça peut se faire. Hein. C'est vraiment.
Il me semble, alors je me rappelle plus quel modèle c'était, mais il me semble qu'il y avait des modèles Android aussi, ils avaient réussi à contrôler le système de sécurité pour installer des chargeurs de démarrage plus libres. Alors je sais plus ce que c'était comme modèle, je me rappelle plus, mais je sais que j'avais vu ça sur Internet.
J'en connais un pour les Nexus S, le Galaxy S. En fait, ce qu'ils utilisent généralement, c'est quand même un bout qui est signé, mais qui permet d'exécuter un bout pas signé après. Ça s'était fait sur Nexus S, Galaxy S, des plateformes Samsung S5 P110 de mémoire. Et c'est ça qu'ils font en fait. Ils chargent un tout petit bout de truc signé qui permet d'exécuter un truc après pas signé. Et à partir de là, on peut faire des tas de choses. Mais bon, il y a toujours un bout signé. C'est vraiment casser des clés. C'est pas courant quoi.
Les autres questions?
Sur l'architecture des plateformes, les bonnes et les mauvaises, c'est quoi les meilleurs points d'entrée de documentation pour sélectionner une bonne plateforme ou une mauvaise ?
Bah alors, en fait, c'est assez simple. Déjà, la documentation elle-même, c'est un bon point d'entrée. S'il n'y a pas de documentation, il faut laisser tomber. Parce que si on regarde, en fait, les Texas Instruments, les Freescale AMX, les trucs que j'ai mentionnés comme bonnes plateformes, ceux-là, ils ont, vous téléchargez des PDF qui font 2000 pages et sur lesquels vous avez tout le matériel qui est expliqué. Ça, déjà, c'est un bon signe. C'est pas mal. Cherchez à faire la même chose sur les plateformes Mediatek, c'est des trucs chinois. Vous trouverez un pauvre PDF de 50 pages qui vous explique en termes commerciaux. Regardez, c'est bien, on peut faire de la 3G. Donc ça c'est un premier truc à voir. Après, évaluer si une plateforme permet d'exécuter du code signé ou pas. Pour vraiment trouver ça dans le détail, la meilleure chose à faire, c'est toujours d'essayer, genre acheter un téléphone, modifier un byte dans le chargeur de démarrage et voir s'il démarre toujours. Parfois on essaie, ça marche pas. On a eu l'expérience. Alors du coup bon. Ça se récupère ou pas, ça dépend. Non, après on peut aussi demander aux fabricants. C'est vrai qu'en ce moment, je travaille pas mal sur le matériel embarqué avec ce qu'on appelle les single board computers. Alors, je sais pas trop comment ça se traduit. Enfin, les trucs avec une carte unique. La semaine dernière, je me suis intéressé un petit peu à une carte de Nvidia, Jetson TK1, ça s'appelle. Qui fait tourner un processeur Tegra, et du coup je me suis posé la même question: comment je sais si ce truc-là il vérifie des signatures ou pas? Bon, ben j'ai envoyé un mail à un mec de Nvidia, le dirigeant des programmes open source, je sais pas quoi. Enfin bon, j'ai envoyé un mail au mec, je lui ai demandé, il m'a dit bon ben non, c'est pas le cas. Par contre, c'est à la discrétion du fabricant. S'il y a d'autres téléphones qui utilisent cette même plateforme, peut-être qu'ils l'ont activé. Donc c'est toujours un peu... Sur certaines plateformes, on peut quand même le savoir, il y a un registre sur lequel on peut accéder. Je sais que sur les OMAP de Texas Instruments, il y a une adresse où il suffit juste d'aller voir dans le registre, ça vous donne une valeur, et cette valeur, vous pouvez savoir clairement si ça indique que le processeur vérifie ou pas les signatures. Donc ouais, ça peut se faire parfois même sans tout casser. Voilà.
Mais il n'y a pas de blog qui agrège la connaissance de quelle plateforme est bonne ou quelle plateforme est mauvaise, enfin...
Alors, est-ce qu'il y a un blog ou un site web qui agrège en fait, la connaissance de quelle plateforme on sait ou pas? En fait, c'est ce que je voudrais faire. Je vais lancer un wiki qui va s'appeler Embedded Freedom Directory. Donc, ça va être embedded-freedom.org. Et là-dessus, je vais en fait étaler tout ce qui est sur les appareils embarqués, toutes les plateformes, chacune. Est-ce qu'il y a des vérifications de signature? Quels sont les chargeurs de démarrage libre qui existent? Ces choses-là. Et puis ensuite, lister tous les appareils qu'on connaît. Voilà, toutes les cartes. Telle carte utilise telle plateforme avec tel truc de sécurité activé ou pas. Et c'est un truc que je vais faire là dans le mois qui suit. Où, voilà, c'est vraiment un projet.
D'abord, merci. Et puis, à mon avis, c'est une très bonne idée, ça. Un commentaire d'ailleurs. On parle beaucoup de la liberté du terminal. Il y a aussi le réseau. Et depuis, ça va faire 20 ans maintenant, on peut s'interroger sur le niveau d'ouverture des standards. Même GSM au début, en 98, il fallait $100,000 pour avoir les documentations. Aujourd'hui, pour avoir la documentation du fonctionnement des protocoles 3G, je suis même pas sûr qu'on puisse avec de l'argent. Donc dès le début, là, on est, non, on fait que de la rétro-ingénierie et, enfin, la 3G, ils ont changé la modulation de certaines... Enfin, bon, on en parlera en ligne. Mais c'était juste un commentaire pour dire, si on remonte au standard, on a un problème déjà dès la définition de la technologie, de comment on va faire pour éventuellement la connaître, sans me rentrer dans les mécaniques propriétaires. Après, une vraie question, pourquoi Optimus Black? C'est quoi Optimus Black? Ouais.
Non, le truc de l'Optimus Black, c'est juste, donc c'est un téléphone qui a fait LG en peut-être 2008 ou 2007, un truc comme ça. Bon, c'est un truc qui commence à être vieux, mais ce téléphone, en fait, il est très intéressant parce qu'il permet d'exécuter un chargeur de démarrage sans vérification de signature. Et ça, sur un téléphone qu'on trouve dans le commerce comme ça et qu'on trouve encore, hein, on peut en trouver sur eBay, bon, c'est pas de problème. C'est très très rare en fait. Je parlais du GTA 04. Le truc, ça, c'est produit donc par une entreprise allemande et ils en font par fournée de sang. Et c'est juste des cartes, il faut le plastique autour qu'on récupère sur un OpenMoco. Et ces trucs-là, ils les vendent à peu près, peut-être, je sais pas, 600 euros l'unité, parce que voilà, ils les font par 100 et ça coûte énormément d'argent. Voilà, il y a pas, de toute façon, il n'y a pas assez de demande. Donc c'est pour ça que quand nous on tombe sur un truc comme l'Optimus Black, qui en fait est assez comparable au GTA 04. En fait, la seule différence, ça va être peut-être le GPS qui fonctionnera pas sur l'Optimus Black, parce que c'est pas une puce sympa et j'ai pas encore compris comment elle marche. Et ça viendra pas, parce que c'est trop compliqué. Et c'est, enfin voilà, quand on tombe sur un truc comme ça, c'est génial et on bosse dessus. Et, ouais.
La dernière question, je crois, parce que le temps est...
Bonjour, je suis donc utilisateur de Replicant déjà, et j'avais par un moment eu le problème que le modem ne fonctionnait pas, et donc j'avais essayé de récupérer les sources pour le compiler, puisque sur le forum tu avais dit que tu avais réécrit la RIL et que ça devrait marcher. Sauf que j'avais eu le problème que, eh bien les sources, c'est, enfin la manière d'écrire sur le forum, sur le wiki, c'est qu'il fallait récupérer tout l'historique Git, et ça fait plusieurs dizaines de gigas. Et est-ce qu'il y a un moyen de seulement récupérer la dernière version, la dernière état? Non?
Non, disons que j'ai jamais essayé parce que pour développer, on a besoin de l'historique Git. Donc, en fait, on se pose pas vraiment la question. Après, peut-être que le truc qu'on utilise, l'outil, c'est repo pour télécharger le code source. Peut-être que ce truc-là peut juste télécharger sans prendre tout l'historique Git. Ça m'étonnerait un peu. J'ai jamais essayé parce que pour moi, il n'y a pas tellement d'intérêt. Après, oui, c'est sûr, il faut de la place. Ça peut prendre 2 jours à télécharger tout le code source. Il faut se dire que c'est un système entier. Essayez de télécharger tout le code source d'Ubuntu et de le compiler ou de Debian ou ce que vous voulez ou de Triskel. Vous allez voir, ça va vous mettre un certain temps. C'est un peu pareil, voilà. C'est beaucoup de code et ouais, c'est sûr, ça prend la, même à compiler, hein. C'est des trucs, je sais pas, à compiler une image, ça vous prend, ça pourrait être pire, mais ça prend peut-être 2 heures ou un truc comme ça, quoi. C'est gros, il y a un système entier, alors forcément, il y a beaucoup de code. Et on peut difficilement compiler les trucs séparément, en fait. Il y a une grosse dépendance de tout le système, enfin une grosse interdépendance de tout le système. En fait, Android, le système de compilation n'a pas du tout été conçu pour compiler les applications séparément. Donc c'est du tout ensemble. Et bon, c'est comme ça, désolé.
C'est vraiment la dernière question. Bon, il faut bouger.
Ma question, du coup, c'est concernant les pilotes graphiques, l'accélération OpenGL ES, ça en est où ? Tu disais que c'était uniquement software, là, si j'ai bien compris. Et donc Lima et FreeDreno, ça en est où aujourd'hui ?
Déjà, FreeDreno, c'est très 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 bien avancé. Ça peut faire tourner GNOME 3, enfin, ça peut faire des trucs assez fous. Rob Clark qui travaille là-dessus et c'est un mec, bon voilà, c'est un fou furieux, il sait ce qu'il fait. Voilà, ça marche bien. Lima, au point où on en est aujourd'hui, il n'y a pas de driver utilisable. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on aille tous voir le développeur Luc Verhagen et qu'on lui dise que c'est génial ce qu'il fait, qu'il faut qu'il continue parce qu'il a un peu, bon. Des fois, il faut motiver les développeurs, il faut leur dire que c'est important ce qu'ils font et sinon, parfois. Ouais, parfois ils en ont un peu marre, c'est normal aussi, ça se comprend. Donc Lima, on n'y est pas encore, mais... Alors, le problème, c'est que FreeDreno, c'est pour des GPU qui sont sur les plateformes Qualcomm. Les plateformes Qualcomm sont réputées pour être très mauvaises en matière de vie privée et de sécurité. On sait aussi que les chargeurs de démarrage sont systématiquement signés. J'en parlais justement donc avec le développeur de FreeDreno, il me disait qu'à sa connaissance, il y a pas de puce ou de carte ou de téléphone ou quoi que ce soit qui a un chargeur de démarrage libre. Donc pas de bol. Pour nous, ça nous intéresse moins parce qu'avoir de la 3D, c'est sympa, mais bon, parfois on préfère avoir de la vie privée et des chargeurs de démarrage libre. Alors bon, c'est toujours un peu un compromis, mais pour l'instant, on a décidé de faire l'impasse sur les Qualcomm. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup.